cinéaste, l'américain du cinéma, l'américain Robert Wise vient de mourir. Il avait 91 ans. Il avait réalisé deux chefs-d'œuvre du 7e art, West Side Story et La Mélodie du Bonheur. Dans un instant, on fait un nouveau point avec la Bourse de Paris.
La Bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Tendance à la hausse, Antoine Verlin, à la Bourse de Paris.
Effectivement, Claire, à quelques minutes de la publication de nombreuses statistiques américaines, parmi lesquelles sont attendues les prêts à la consommation et les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, eh bien, les marchés européens font preuve de fermeté. À Paris, le CAC 40 est en hausse de 0,41%. Il remonte à 4488 points dans un volume d'affaires d'1,8 milliard d'euros négociés. Outre des résultats d'entreprises très engageants, l'euro participe également à ce raffermissement de la tendance en fléchissant actuellement de 0,65%. Il revient à 1,2234. Enfin, en ce qui concerne les marchés de l'or, au premier fixing à Londres, l'once abandonne 20 cents à 449,10 $. Je rappelle que le CAC 40 est bien orienté, plus 0,41% à 4488 points. C'est Antoine Verlin, la Bourse de Paris pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros les minutes. 3230, France Inter au bout du fil.
14h03, Patrice Gélinet, c'est à vous pour 2000 ans d'histoire. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 17 septembre 1980, il y a 25 ans, la naissance du premier syndicat libre du monde communiste, Solidarité.
C'est à nous de veiller à ce que ces syndicats soient toujours indépendants et toujours autogérés pour les biens de nous tous et pour les biens de la Pologne.
D'histoire. Il y a 25 ans, le 17 septembre 1980, 400 délégués venus de toute la Pologne fondaient officiellement un syndicat dont tout le monde connaissait déjà le nom. Solidarité, c'était le titre d'un journal créé un mois plus tôt par les ouvriers des chantiers navals de Gdansk qui, le 14 août 1980, s'était mise en grève pour réclamer des libertés qui n'existaient dans aucun pays communiste. La liberté d'expression, le droit de grève, mais aussi la reconnaissance de syndicats libres, indépendants du pouvoir. À la tête de ce mouvement, qui bien avant la chute du mur de Berlin allait entraîner 9 ans plus tard l'effondrement de l'Empire soviétique et du communisme, on entendait parler pour la première fois d'un homme dont le nom, le visage et la voix allaient en quelques jours devenir célèbres dans le monde entier. France Inter, Pierre Gans.
Tache noire à la gauloise, barrant un visage bonhomme, chemise ouverte sur un veston élimé, Falsa rayonne en permanence d'un sourire généreux et malicieux. Ce père de 6 enfants est devenu en quelques jours une vedette mondiale. Ce gréviste est très croyant. Quand je me heurte à un problème, explique-t-il, je vais à l'église et je prie.
Je suis un peu maladroit. Je ne suis qu'un ouvrier. Je ne suis peut-être pas cultivé, mais j'ai du cœur. Soutenez les grévistes, ils sont très fatigués. De toute façon, on tiendra, même si ça doit durer 5 ans.
Bernard Guetta, bonjour.
Bonjour.
Alors, il y a 25 ans, bien avant de venir sur France Inter, vous étiez journaliste au Monde, arrivé à Gdansk au début des grèves qui s'y sont déclenchées au mois d'août 1980. Et donc, vous faisiez partie de ces journalistes qui découvraient ce jour-là, comme nous, qui vous lisions, qui vous regardions à la radio ou à la télévision, la voix, donc, que l'on vient d'entendre, celle de Lech Walesa, qui n'était... Vous le connaissiez en arrivant en Pologne? Vous avez déjà entendu parler de lui?
Non, jamais. Jamais, alors que je connaissais très bien à l'époque la plupart des personnalités, des figures en tout cas de l'opposition polonaise, je n'avais jamais entendu parler de Wałęsa. C'était un ouvrier lié à l'opposition, mais parmi d'autres, parmi des dizaines, voire des centaines d'autres. Il avait joué un rôle relativement important 10 ans plus tôt, au moment des grandes manifestations, en vérité presque émeutes ouvrières qui avaient été réprimées dans le sang. Il avait été licencié du chantier naval pour sa participation et son rôle d'animation dans ce premier mouvement de 70, puis il avait été réintégré, il avait une histoire personnelle. intellectuel, une culture, mais ce n'était certainement pas un homme connu en Pologne comme oppositionnel, comme l'était Jacek Kuron, Adam Michnik, Mazowiecki, etc.
Vous arrivez au tout début de ces grèves de Gdansk, en tout cas parce qu'elles avaient un peu commencé un peu avant, mais à Gdansk, elles commencent à devenir sérieuses à partir du 14 août, et je crois que vous les avez couvertes pendant à peu près, enfin toute la durée jusqu'à la signature.
Ah, de la première à la dernière heure,
est-ce que vous aviez le sentiment à ce moment-là, parce qu'après tout, personne ne savait ce qui allait se passer encore le 16, 17, 18 août, comment ça allait finir, d'assister à un moment historique, Bernard Guettard?
Écoutez, oui, je crois que mes papiers en témoignent, je le disais à l'époque, dans les papiers que j'envoyais de Gdansk, mais pas parce que j'étais prophète, tout simplement parce qu'il y avait deux réalités. Premièrement, la Pologne était évidemment à l'époque le maillon faible du bloc soviétique, pour plusieurs raisons. La première, c'est que depuis 56, l'histoire de la Pologne communiste est l'histoire d'une succession de rébellions contre le parti quasiment unique, et rébellions qui avaient à chaque fois toutes laissé un acquis. Alors évidemment, après chacun de ces mouvements, le pouvoir reprenait d'une main ce qu'il venait de céder, mais il n'avait jamais repris tout. Alors c'est la première raison. La deuxième raison, c'était la puissance de l'Église, le fait que l'agriculture était à près de 80% restée privée dans ce pays communiste, qui avait un petit commerce et une toute petite industrie privée, et puis enfin, deux éléments majeurs, la force d'une opposition intellectuelle extraordinairement active et restée active depuis 56, mûrie dans toutes ces épreuves et toutes ces batailles à répétition, et l'élection du pape.
Oui. On y reviendra, Bernard Guettard, mais l'atmosphère, parce que je crois que c'était une grève, ça a été très dur, c'était quand même, ça a duré une quinzaine de jours, enfin entre le déclenchement à Gdansk et...
Oui, en fait, il y a quasiment trois semaines.
La façon dont ça se passait, ce que vous avez vécu à ce moment-là pendant ces...
Vous savez, il y avait un décalage absolument incroyable, parce que évidemment, pendant la grève, Gdansk avait été coupé du monde. On ne pouvait plus téléphoner, à l'époque il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait rien du tout. Moi, chaque matin, je prenais l'avion pour Varsovie, pour aller dicter de Varsovie mes papiers au monde, puis je rentrais ensuite. Enfin, c'était une île à l'intérieur de la Pologne. Mais on captait naturellement les radios occidentales. Et sur toutes les radios occidentales, nous, les acteurs de cette grève et moi qui la couvrais, nous entendions, on fait une musique unique, non pas une interrogation sur est-ce que l'Union soviétique va intervenir, mais quand l'Union soviétique va intervenir.
Oui, donc de la peur, je suppose, et l'appréhension.
Écoutez, oui.
Il faut rappeler quand même que vous évoquiez l'agitation en Pologne avant 1980, mais il y a eu en 53 le premier soulèvement ouvrier. D'ailleurs, c'est ça qui est très embêtant dans les pays communistes qui prétendent représenter le monde ouvrier, c'est que ce sont des agitations, des soulèvements populaires. 53 en Allemagne de l'Est, 56 en Hongrie, écrasé dans le sang, 68 bien sûr.
Et vous n'oubliez pas 56 en Pologne aussi.
Et 56 en Pologne. Donc là, je suppose qu'il y avait de l'appréhension. Quelles étaient les revendications de ces grévistes? Je crois qu'au départ, et d'ailleurs c'est un peu aussi la cause immédiate, il y a eu des augmentations de prix qui étaient insupportables pour l'ensemble des Polonais, mais notamment pour les ouvriers. Et la première revendication, c'est une revendication salariale.
Alors écoutez, je dirais que l'élément déclencheur est un problème de niveau de vie, absolument classique, un problème purement social. Mais j'assiste dans la nuit du 17 au 18 août, d'un samedi au dimanche, la réunion pendant laquelle vont s'élaborer les 21 revendications de ce mouvement. Et dès le début de la discussion, il est absolument clair que ce qu'ont en tête les délégués du comité interrégional, parce que c'était déjà une grève interrégionale, il n'y avait pas seulement le chantier Lénine, il y avait énormément d'entreprises de la région, eh bien, ce qu'ont ces grévistes en tête, ce sont des revendications politiques. Vous l'avez dit à l'instant, c'est la liberté de parole, c'est la liberté pour l'Église, qui était assurée en vérité d'ailleurs, mais enfin une pleine liberté d'action pour l'Église, c'est la liberté syndicale, la reconnaissance d'un syndicat indépendant et libre. Et dans cette liste de revendications, les problèmes de salaire et de niveau de vie sont quasiment oubliés. Et attendez, le jour, le 31 août, où le représentant du pouvoir et le syndicat signent ce qu'on a appelé les accords de Gdansk, eh bien, à un moment donné, le représentant du pouvoir dit, mais écoutez, les augmentations de salaire, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'argent. Et à ce moment-là, Wałęsa se lève et dit textuellement, écoutez, s'il n'y a pas d'argent dans les caisses, ça ne sert à rien d'en imprimer. Et fondamentalement, les revendications salariales sont laissées de côté. La prime est aux revendications politiques.
Et les accords de Gdansk sont signés donc le 31 août 1980 à 16h.
En Pologne, les grévistes ont gagné. Le compromis a été signé hier à Gdansk. Et c'est Lech Walesa lui-même qui l'a annoncé au gris des chantiers navals. Écoutez.
Vous voyez cet écrit-là ? C'est signé. Vous voyez, je ne vous ai pas trompé. La première étape est finie, mais la deuxième me fait peur. On va chercher à nous tromper, mais on va se battre. Je sais que je ne suis pas seul. Je partage cette responsabilité avec vous. C'est une force, une très grande force.
Signature des accords de Gdansk, 31 août 80. Je crois que c'est un moment qui a dû compter dans votre carrière de journaliste, Bernard Guetta.
Toute cette grève, mais...
Ce moment-là, le 31.
Bien sûr, toute la grève, mais particulièrement... Vous savez, c'était une scène extraordinaire, parce que ça se passait dans la grande salle de conférence, pleine d'apparat, du chantier qui s'appelait encore à l'époque, évidemment, le chantier Lénine. C'est un chantier naval. Il y avait une statue de Lénine en plâtre sur l'estrade. C'est au pied, d'ailleurs, de la statue de Lénine en plâtre qu'avait été élaborée dans cette nuit dont je viens de vous parler, les 21 revendications. Il y a là une délégation gouvernementale qu'on conduite par un vice-ministre, un homme assez modéré, remarquable, très très calme, auquel la Pologne doit énormément. Il a joué un très grand rôle. Et puis, en face de lui, cette immense salle bondée de plusieurs centaines de délégués d'ouvriers. Et alors, on prend la liste des revendications. Et alors, premier point. C'est revendication, en polonais, ça se dit postulat, comme postuler en français. Donc, c'est premier postulat. Et le vice-premier ministre répondait « J'accepte, je signe ». Deuxième postulat, « J'accepte, je signe ». Troisième, c'était un leitmotiv, c'est fascinant. Fascinant. Alors vous me posiez la question tout à l'heure, est-ce que j'avais le sentiment en arrivant au chantier, au début de la grève, que je vivais un moment historique, qu'on vivait un moment historique ? Naturellement, mais là, ce leitmotiv, j'accepte, je suis c'est un pouvoir communiste capitulé.
C'est ça, c'est la première fois hein, dans l'histoire qu'on voit le pouvoir reculer devant, il y a eu d'autres manifestations populaires, d'autres insurrections, mais là, il recule. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi ? On a beaucoup évoqué le soutien très important de l'Église. Il faut rappeler quand même qu'elle est très présente. Si les partis sont interdits, l'Église ne l'est pas. En Pologne, à l'époque, il y avait quand même 21 000 prêtres, 10 000 moines, 30 000 religieuses. Et puis surtout, vous le disiez, l'élection du pape en 78, deux ans plus tôt. Est-ce que ça a pesé dans la capitulation, on peut le dire, du gouvernement polonais ?
Écoutez, ça a pesé énormément, mais comme un élément parmi d'autres. Le fait fondamental, c'est qu'il y avait dans ce pays, au moins depuis 5-6 ans, et en vérité depuis 1956, depuis l'octobre polonais, mais certainement depuis 5-6 ans, depuis la moitié des années 70, une vie politique en Pologne, sous le manteau, sous l'apparat de ce régime socialiste, de ce régime totalitaire. En vérité, il y avait des rapports de force, des tendances à l'intérieur du parti qui jouaient les unes contre les autres. Naturellement, vous l'avez mentionné, le poids de l'Église. Mais, j'allais dire, surtout, en tout cas, au moins égal, le poids de l'opposition politique.
Et le silence de l'URSS. Parce que quand même, pour elle, c'est extrêmement dangereux. Ce qui se passe en Pologne, ça peut faire des métastases dans les autres états satellites de l'URSS. Et on l'a vu, elle avait réagi très
brutalement. Alors, je comprends votre question. Pas de vous interrompre. Je comprends parfaitement votre question. La réponse, elle est extraordinairement simple. Souvenez-vous que 8 mois plus tôt, très exactement, l'Union soviétique vient de faire la gaffe historique majeure de son histoire. L'Union soviétique vient d'envahir l'Afghanistan. Et immédiatement, on sent partout de par le monde, mais y compris au bureau politique soviétique, que c'était une gaffe majeure. Pourquoi ? Parce que les alliés traditionnels de l'Union soviétique sur la scène internationale, c'est-à-dire les non-alignés et les pays qu'on appelait à l'époque les pays du tiers-monde, se désolent, pire que ça, rompent avec l'Union soviétique à cause de l'invasion de l'Afghanistan. Et l'Union soviétique se retrouve incroyablement isolée. Alors, souvenez-vous que quelques années auparavant, 12 ans plus tôt, en 68, l'Union soviétique avait envahi, pour casser le printemps de Prague, la Tchécoslovaquie. Ça lui avait coûté énormément dans tous les partis communistes du monde, dans tout ce qu'on appelait le mouvement progressiste. Alors, recommencer l'invasion de la Pologne qui aurait résisté, dont une partie de l'armée aurait basculé, ça ne collait pas.
Alors donc là, elle laisse faire, elle laisse signer ces accords sans intervenir, accords qui prévoient la création donc de syndicats libres, officiellement Solidarité qui a déjà été reconnue par les accords de Gdansk et créée il y a exactement 25 ans à deux jours près, le 17 septembre 1980, avec à sa tête bien sûr Waleza. Waleza, on l'a entendu tout à l'heure dans l'archive, qui est quand même très inquiet. À peine les accords sont-ils signés, on l'a entendu, il dit la première étape est finie, mais la deuxième me fait peur. Donc il sent bien quand même qu'il va y avoir une partie de bras de fer qui a duré environ 16 mois jusqu'à l'arrivée au pouvoir du général Jaruzelski qui, dans la nuit du 12 au 13 décembre 1981, siffle la fin de la récréation. France Inter, Denis Astagnaud, le 13 décembre 1981.
La Pologne, sous une main de fer, c'est un véritable coup de théâtre qui s'est joué cette nuit à Varsovie. L'armée a pris le contrôle de la situation. L'état de siège a été proclamé. Le couvre-feu vient d'être instauré. Un conseil militaire de salut national a été constitué. Son premier geste a été de suspendre toutes les activités des syndicats, y compris donc et surtout de Solidarité.
I obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz.
La voix que vous entendez, c'est celle du général Jaruzelski sur Radio Varsovie. Je m'adresse à vous en tant que soldat et premier ministre, dit le général, qui ne mentionne pas sa fonction de dirigeant du Parti communiste. Il annonce que l'état de siège a été proclamé à minuit. C'est la conclusion politique de la prise en main brutale du pays par les militaires. L'homme fort de Varsovie demande qu'aucune goutte de sang ne soit versée et affirme qu'il s'agit d'une affaire strictement intérieure.
Janek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie ducha. Janek Wiśniewski padł.
Krystyna Janda, la balade de Janek Wiśniewski, qui était une des victimes du coup d'état de Jaruzelski, je crois, en 1981. Bernard Guetta, vous aussi, vous étiez présent à ce moment-là. L'atmosphère qui régnait au moment où il a été déclenché.
Vous savez, il s'est passé une chose extraordinaire, que 5 heures exactement avant la première diffusion de cette allocution de Jaruzelski, dont nous venons d'entendre des extraits, la totalité de la direction nationale de Solidarité avait été arrêtée. Sous mes yeux, j'étais là. Je les ai vus monter les uns après les autres dans les paniers à salade, ou plutôt d'ailleurs, plus précisément, dans des camions militaires. Et j'ai rejoint parce que Guérémec, qui est devenu célébrité internationale depuis, Guérémec n'était pas dans le même hôtel que la direction nationale de Solidarité. Donc je l'ai trouvé dans son hôtel, je l'ai réveillé, je lui ai expliqué la situation, etc. Il m'a fait répéter 4 fois. Et puis, à la 4e fois, il a tiré sur sa pipe et il m'a dit « Ils ne réussiront pas ». Vous entendez ? Dans la nuit du coup d'État, il me dit, à 2h ou 3h du matin, « Ils ne réussiront pas ». Et en vérité, vous savez, on a vu tomber un manteau de glace sur ce pays. C'était une chose effroyable. J'ai sangloté toute une journée, comme tout le monde d'ailleurs. C'est pas parce que j'étais particulièrement émotif. Tout le monde pleurait. Tout le monde pleurait parce que tout le monde avait quelqu'un en tôle, enfin, etc. C'était épouvantable, ce pays coupé du monde. Brusquement, mais quelque chose de terrible. Et puis surtout, vous savez, un peuple vaincu par sa propre armée. Encore, ça aurait été l'Union soviétique, le pacte de Varsovie. Non, c'était vaincu par sa propre armée. Et en même temps, il y avait un sentiment profond un sentiment profond exprimé par cette phrase de Guérémec, qu'il ne réussirait pas. Et pourquoi en vérité? Pour une chose très simple, ce coup d'état militaire marquait symboliquement la fin de la spécificité des régimes communistes. On n'avait pas pu rétablir l'ordre par la reprise en main par le parti. Il avait fallu recourir à un très classique, très banal, très latino-américain coup d'état militaire. C'était la seule solution. Et dès lors que un régime communiste recourait à ce coup d'état militaire parce que l'Union soviétique ne pouvait pas intervenir et parce que le parti était de toute manière complètement dans les choux, éclaté avec des réformateurs, des gens dans Solidarité, pardonnez-moi le mot, mais un bordel complet dans le parti polonais, ben il n'y avait plus que l'armée, et même pas spécifiquement l'armée, le renseignement militaire à l'intérieur de l'armée. Qui Jaruzelski met à la tête du ministère de l'Intérieur, le patron du renseignement militaire, le général Kishak. C'était la fin d'une époque.
Et sans empêcher des émissions comme celle que l'on va entendre.
Tu Radio Solidarność.
Tu Radio Solidarność.
Od razu na początku audycji.
12 avril dernier, première émission de Radio Solidarność. Les speakers invitent les Varsoviens à indiquer la qualité de la réception aux observateurs en éteignant et en rallumant la lumière une, deux ou trois fois. Ils demandent aussi d'enregistrer leur voix pour authentifier à l'avenir la radio avec certitude. Ils incitent les Polonais à se battre pour la libération des prisonniers, la réinstauration des droits de l'homme et le renouveau du syndicat.
Eh bien, c'était une émission clandestine de Radio Solidarité, Solidarność. C'est vrai, c'est ce que disait Jérémec, ils ne réussiront pas. Et tout de suite, hein, ça c'est dès le mois d'avril 1982, et il y a eu petit à petit, effectivement, Waleza était en prison, je crois, bien sûr, Berlinguetta, quand il était en plus bombardé prix Nobel, ça aussi.
Oui, Waleza était en vérité en résidence surveillée, ils n'ont pas osé directement le mettre en prison. Tous les autres dirigeants du syndicat étaient, eux, soit dans des prisons, soit dans des espèces de camps improvisés, où ils n'étaient pas maltraités. Hein. C'était pas le Chili de Pinochet. C'était pas l'atmosphère hein, pour le Chili de Pinochet. Mais, en revanche, ils étaient sous les verrous. Et ils étaient sous les verrous. Le syndicat Solidarité était non pas interdit, non pas dissous, mais suspendu.
Ouais.
Suspendu pendant la durée de l'état de guerre proclamé par le général Jaruzelski, mais suspendu ou pas, ses dirigeants en prison ou pas, et bien le syndicat a commencé à refonctionner immédiatement, ou plutôt à continuer à fonctionner immédiatement, avec des cadres intermédiaires, de nouveaux cadres, des gens qui n'avaient pas été arrêtés, des structures clandestines. On vient d'entendre cet extrait de Radio Solidarité, c'est une radio clandestine, évidemment. Des structures clandestines, donc, se sont mises en place dans tout le pays. Et en vérité, l'opposition n'a jamais cessé, état de guerre ou pas. Jamais cessé.
Avec, faut bien dire, un petit coup de pouce tout de même, il faut le noter, l'absence totale de réaction négative de la part des pays occidentaux. On se souvient des propos du ministre des Affaires extérieures, c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque, qui était Claude Cheysson, qui disait, bien entendu, nous ne réagirons pas ou nous ne bougerons pas.
Ne soyez pas injuste. Ne soyez pas injuste, ne soyez pas excessif. On est dans la situation de la guerre froide. Personne, pas même Ronald Reagan, ou surtout pas Ronald Reagan, ne veut déclarer la guerre à l'Union soviétique à cause du coup d'État en Pologne, ou envoyer des troupes en Pologne pour rétablir Solidarité dans ses droits. Et donc, quand Claude Cheysson répond à la question « Qu'allons-nous faire, nous les Français ?» quand il répond « Rien », bien sûr, il n'a que le tort de dire à haute voix ce que tout le monde sait bien, et ce qui est en vérité le sens commun. Mais en revanche...
On reçoit quand même Jaruzelski en 85, en France, le président de la République française.
En 85, ouais. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Mais au moment de la proclamation de l'état de guerre, il y a notamment, et je dirais même surtout en France, une émotion nationale qui couvre la totalité de l'échiquier politique, et qui est absolument colossale, qui est absolument énorme, parce que Solidarité avait suscité une sympathie gigantesque Je dirais dans deux pays particulièrement, en France et en Italie.
Et puis alors, il y a quelque chose qui est quand même capital. En 85, la perestroïka, Gorbatchev, qui est bien décidé cette fois-ci à ne plus intervenir du tout, même indirectement, dans les affaires des pays satellites, ce qui explique peut-être progressivement, d'abord on relâche Valéza, et puis des négociations qui aboutissent en 89 aux premières élections libres dans un pays communiste, et pas seulement en Pologne. Et en 90, Valéza devient président de la République. J'étais le grain de sable, dit-il. Entre le moment où il y a les premières élections libres en Pologne en 89 et l'élection de Valéza, il y a eu le mur de Berlin. Le rôle de ceux dont on vient de parler, de solidarité, des grèves de 80, Bernard Guetta, dans ce qui a suivi, c'était le grain de sable, justement?
Oh, c'était même plus que le grain de sable. Parce que le mouvement de solidarité est arrivé à un moment où le soviétisme, disons, la réalité du communisme était très 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 essoufflée politiquement et économiquement, et en plus ce mouvement de solidarité a révélé au monde ce que pensaient les ouvriers des pays communistes, des régimes communistes. Et ça a été un coup politiquement parlant mortel, parce que la grande force du communisme, c'était évidemment les bombes atomiques de l'Union soviétique, mais c'était aussi, et je dirais presque surtout en vérité, le prestige qu'avait, bien à tort, mais c'était ainsi, le communisme dans toute une partie, quelle partie de l'opinion mondiale, et pas seulement en Europe.
Ce qui est pathétique quand même, quand on dit du rôle qu'il a pu jouer, qu'a pu jouer Solidarność, son syndicat, Solidarité, c'est aujourd'hui, Valéza a été élu en 90, il a été battu en 95, il compte plus beaucoup, il a été complètement marginalisé, il s'est planté à des élections présidentielles. C'est quand même assez pathétique ce destin, le destin de cet homme qui, dont le rôle a été tellement important dans l'histoire du XXe siècle.
Alors écoutez, il a eu une chute d'amour, je dirais, dans son propre pays pendant les années 90, pendant et après sa présidence. Aujourd'hui, il est de nouveau bien aimé. Aujourd'hui, il est de nouveau bien aimé, mais parce qu'il n'a plus de prétention politique, précisément. Mmh. Il est devenu un monument national. Mais ce qui est absolument terrible, c'est que ce mouvement de démocratisation, cette grève qui est... toutes les conséquences que l'on vient de dire. Ben, si vous retournez aujourd'hui au chantier naval de Gdansk, il s'appelle maintenant le chantier de Gdansk et plus le chantier Lénine, eh bien, plus des deux tiers des ouvriers qui avaient fait cette grève ont été licenciés par l'effet de leur propre triomphe, je veux dire par la victoire des lois économiques du marché. Alors voilà, écoutez, rendez-vous le mois prochain ou la semaine prochaine pour une deuxième émission, parce que ça, véritablement, c'est passionnant. C'est passionnant, terrible, bouleversant, interrogeant, tout ce que vous voulez. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce mouvement ouvrier a paradoxalement, on peut l'expliquer, mais très paradoxalement, porté le triomphe politique de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher à l'échelle mondiale.
Merci Bernard Guetta, c'était passionnant. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les jours, moins longuement, hélas, mais qu'on peut vous retrouver tous les jours, en tout cas du lundi au jeudi, dans le 7-9 d'Inter, au vendredi, oui, à 8h17, donc pour écouter vos chroniques sur l'actualité internationale, qui n'est après tout que l'histoire de demain, que vous écrivez également une chronique hebdomadaire dans l'Express, et que vous avez écrit avec Philippe Labarde, l'Europe fédérale, édité chez Grasset il y a 3 ans. Pour plus de renseignements sur cette émission, vous pouvez téléphoner au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com, où vous avez désormais, vous pouvez retrouver notre émission en ligne. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Émilie Coué, Michel Bézikian, Claire Tesser, Camille Pouc-Geladier et notre réalisatrice Anne Comé.